Il va le faire sûrement, même.
Radio Talbot est une présentation des Brasseurs illimités et de la bière Simple Malte. Mugodio, les spécialistes pour les DJ, le son et la musique depuis 1998. Mugodio.com. EB Games, le plus grand détaillant de jeux au Canada. Et par CIPC, votre référence pour votre solution informatique.
Je te dis que c'est la référence, vous autres. Comment allez-vous? Mon nom est Denis Talbot. Bienvenue à cette audition de Radio Talbot. On est rendu à l'émission 396 et participe au show ce soir. Laurent Lassalle, bonsoir.
Bonsoir.
Et également à notre ami Alexis, qui est très sérieux, concentré. Qu'est-ce que tu fais là? Tu check quoi là? Tu regardes quoi là? T'es concentré, ça n'a pas l'allure.
Je suis en train de regarder les 10 meilleures interviews du Playboy.
Comme ça, toi.
Ouais, c'est de la recherche.
Hein? Oui.
Regarde en avant quand tu parles.
C'est
voilà.
Pour les articles.
Ah, les articles, oui. C'est le genre de revue qu'on lit juste d'une main, comme disait mon père. J'espère que vous allez bien ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Ça a été un bon congé pour vous, M. Lassalle?
Oui, j'ai joué à GTA en masse. Ah-ha. GTA 5, j'arrive. Je suis 2 ans en retard, mais...
Mais vaut mieux tard que jamais.
Exactement.
Exactement. Là, tu vas venir jouer avec nous autres, j'espère.
Oui, sûrement. Hein?
Ça sera le fun.
Oui.
En ligne, t'es capable.
J'attends d'avancer, de progresser dans le...
Mais t'es pas obligé pour le...
Oui, je suis. Moi, je suis c'est très ça. Méthodique. Moi, je suis comme une étape à la fois.
Un jour à la fois. Oh, d'où Jésus. Les gens me demandent si je jouais à Battlefront. Oui, comme 9 millions d'autres personnes. Hey, c'est l'enfer. 9 millions de personnes ont joué à Battlefront pendant sur Star Wars, bien sûr, pendant 5 jours. C'est malade.
Les downloads, incroyable. Je ne sais pas si la bêta, c'était en ligne. Est-ce que les serveurs ont tenu le coup?
Il y a eu quelques petits roues, je dirais, en début de semaine. Mais sinon, écoute, mon vieux, ça a été...
Juste assez pour que tout le monde chiale, c'est ça?
Ah ben, les gens, ça chiale pas. 9 millions de joueurs, donc, se sont donnés à cette démo qui comptait 3 cartes, en fait. 2 cartes en multi, 1 carte en solo. Et c'est drôle de voir les commentaires des gens. Moi, tout de suite, ça chiale. Oh, ça va être toujours pareil. Tout le temps, même maudit. Écoute, c'est un démo. Si tu as joué 60 heures ou 3, même map, ça se peut que tu aies trouvé ça plate à un moment donné. Ça se peut que tu trouves ça un peu répétitif. Mais l'ensemble du jeu, oui, c'est beau. Je trouve que le jeu a été vraiment bien peaufiné. C'est
ça a l'air solide.
Il y a de l'argent là-dedans, ça paraît.
Oui, ouais, non, mais c'est... Ouais.
Puis moi, j'étais un peu tanné des jeux de guerre, tu sais, de Deuxième Guerre mondiale ou de guerre du futur. Là, on est dans une guerre du futur, mais dans
comme
un
comme
univers...
Call of Duty, c'est pas ça que tu es en train de me parler, non?
Oh, j'étais un petit peu tanné, oui. Là, ça fait du bien de trouver quelque chose de plus frais. Oui, c'est de la guerre encore, c'est la guerre des étoiles.
Non, je le sais, mais c'est déjà plus intéressant, c'est un univers qu'on connaît déjà.
C'est ça. Ça fait longtemps qu'on fantasme de piloter les TIE Fighters puis toutes ces affaires-là.
Quand même l'occasion 472 fois avant, parce que s'il y a une franchise avec laquelle il y a eu beaucoup de jeux, c'est bien Star Wars. Le nombre de jeux qu'il y a eu sur PC, Nintendo, il y a même eu des jeux d'Atari. Depuis le début des films, il y en a eu en masse, mais là
il est solide.
Ça, c'est solide.
Les sons là-dedans, il y a une espèce de bombe là, qu'on lance là, qui fait comme une espèce de... Tu sens la vibration ici. Là. Et, confidence de gamer... Quand je suis arrivé face à face avec Darth Vader, j'ai eu peur. Il est là. Connaissant sa puissance, j'ai eu la chienne. Ça n'a pas d'allure. Okay. Il est assez imposant. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on trouve des pastilles. Ces pastilles-là sont dispersées de façon aléatoire concernant les personnages. Alors, tu arrives, tu vois une icône de Darth Vader, tu le prends. Tu deviens Darth Vader pour un nombre de... Je pense c'est 1 minute et demie dans ce coin-là. J'ai pas calculé. Okay. Mais quand tu l'as, là, tu fais du ménage, tu peux prendre la force.
Non, mais c'est sûr, fun, il est super puissant.
T'entends la petite musique aussi.
C'est comme un power-up.
Ah oui, c'est ça.
Un power-up temporaire, je trouve ça le fun.
Puis même chose quand t'embarques dans les AT-AT. Ça, je trouve ça brillant. Ouais. C'est lourd. Tu sens la lourdeur de ça.
Le bruit caractéristique, parce que ça, c'est assez...
Mais les sons ont été respectés. C'est vraiment bien fait. Est-ce que ça va devenir redondant après un certain temps?
Il y a toujours un risque.
Quand Battlefield est sorti, le 4 ou le 5, bientôt, c'est sûr que si on fait les maps à tour de bras et on joue 8 heures par jour pendant des mois, ça devient redondant, on connaît les trucs. Maintenant, on peut acheter le pack parce que le pack a été annoncé, le Season Pass plutôt a été annoncé. Il va y avoir 4 packs qui vont être offerts aux gens pour 50$. Ça jette le jeu à 90$, tu payes un autre 50$, c'est encore des packs qui sont à venir.
Oui, mais à la limite, je veux dire, tu n'as pas besoin de l'acheter tout de suite.
Non.
J'imagine. Fait que tu l'achètes 90$, tu le fais. Puis, dépendamment si tu le fais intensément ou si tu le fais, je sais pas, à l'intérieur d'un mois ou deux, ben au moins...
Réalises-tu que
ça marche.
Si, mettons, 50% des 9 millions achètent une copie du jeu à 90$,
ouais.
Ça fait, c'est quand même
81 millions.
C'est 81 millions, $81 millions dans leur poche. Je sais pas comment ça a pu coûter, ce faire jeu-là. Puis ça a dû coûter...
C'est peut-être proche de ça.
C'est peut-être proche de ça.
C'est ça, l'affaire.
Mais quand même...
Puis en même temps, c'est pas tout le monde qui aime jouer en ligne. Moi, j'arrive avec GTA, je m'en viens.
Ben, moi, j'adore jouer en ligne. Pour retrouver des chums, puis en coop. Tu sais, vraiment, ils ont mis des éléments en coop pour faire des missions ensemble, des hordes qui attaquent.
Ouais.
Et un autre truc qui s'en vient, qu'on n'a pas vu dans le démo, c'est que tu vas pouvoir camper, mettons, un super-héros comme peut-être Boba Fett.
Okay.
Ou même, moi, ça serait le fun de demander éventuellement...
Un super-héros,
un personnage, je me suis trompé, excuse-moi.
Ben, c'en est quasiment un. S'il y en a un
personnage.
S'il y a un personnage de Star Wars qui peut être qualifié de super-héros, je pense que c'est Boba Fett.
Ou Yoda, tu sais. Tu vas pouvoir camper Yoda, puis il y a les autres qui jouent dans... Je pense que les parties, c'est 7 personnes qui jouent. Un personnage mythique qui affronte des joueurs normaux, entre guillemets.
Pour genre distribué au hasard?
Oui.
C'est un peu comme Metal Gear Online.
Exactement.
Ouais, je pense que c'est un peu... c'est une recette qui a déjà été utilisée. Puis
mais c'est intéressant, tu sais, de camper le rôle de Darth Vader, qu'on appelle Dark Vader.
Ouais, mais ça dépend des versions.
Les Français,
parce
c'est
que
Dark, hein, je pense.
Il me semble que même la version québécoise, je pense le premier film, c'était Dark, puis après ça, c'était Dark. Je sais qu'on a eu l'étoile noire et l'étoile de la mort, alors qu'en anglais, c'est Death Star les deux fois.
Il me semble que son nom, c'est Darth. Darth,
tu sais.
Ils disent Dark Vador.
Mais je pense que c'était juste dans le premier film. Ouais. Mais peut-être qu'après ça, ils sont revenus avec ça ou ça dépend de la version.
Mais c'est pas donné des jeux. Oh. C'est pas donné ces jeux-là. C'est quand même l'édition de luxe 130
cubes. Écoute, il faut que Walt Disney rembourse le prêt utilisé pour acheter le Cosmin, là, tu sais, quand même.
Ils vont faire de l'argent avec ça. Puis il n'y a pas de mode solo non plus, dans le sens où tu peux pas jouer une mission ou c'est pas basé nécessairement sur le film. T'embarques, dans l'action, il n'y a pas rien de... À part la planète qu'on voit dans le set.
Tatooine?
Non,
ah, dans le set, c'est quoi son nom?
C'est Coruscant.
Non, je me souviens plus. Solas? En tout cas, c'est vraiment super.
On risque d'avoir la réponse dans 4 minutes.
C'est ça. Mais très intéressant quand même comme jeu. Je pense que ça va se vendre comme des petits ponchos, comme dirait l'autre. Mm-hmm. Et puis, moi, j'ai commandé, en tout cas.
Moi, je me suis amusé un peu avec Yoshi's Woolly World.
Ouais, comment t'as trouvé ça?
C'est cute, c'est le fun. C'est comme un genre de platformer sympathique. Je jouais à deux avec mon ami Giz.
Ouais.
Puis...
C'est cute,
non? Non, c'est cute, mais je pas... C'est difficile de jouer à deux. C'est un peu comme Battletoad dans le temps à l'arcade ou à la NES. On dirait que jouer à deux, c'est
encombrant.
C'est encombrant, exactement. Ouais, ça aide pas, ça fait le contraire. Puis c'était un peu la même chose avec The New Super Mario Brothers, Wii Edition, machin. Tu sais, le joueur, s'il quitte l'écran, ben là, il revient.
C'est ça.
Là, il essaye de te suivre. C'est cool, ça peut être le fun. Mais c'est complètement ailleurs dans ton cerveau. Tu n'es pas là pour compléter des niveaux, tu es plus là pour t'amuser.
Mon fils a un commentaire intéressant. Il a vu ça, il dit c'est comme Mario, mais avec un personnage différent.
Ben oui. Mais il y a quand même une mécanique différente. Il y a des balles de laine. On doit pitcher de la laine pour se construire des plateformes à certains endroits. La stratégie est un peu différente. Ouais. C'est très amusant.
Il est beau, Il est très joli. C'est un jeu qui est très beau. On va faire une démonstration de ça. On va faire un playtest éventuellement.
C'est drôle. On dirait que c'est tout le temps Yoshi qui se ramasse avec un autre... d'autres textures ou d'autres effets visuels. Par exemple, quand il y a eu, je pense, c'est Yoshi's Island, Super Mario Advance 2 au Super Nintendo, c'était très coloré, très dessin animé, tandis que les autres Mario, ils restaient quand même campés avec le même style. Puis là, on est rendu avec un Yoshi en laine. C'est cute.
Ouais. Non, moi, j'aime bien ça. Écoute, on va faire le test davantage. Je suis pas le plus grand fan de Yoshi, mais le jeu est amusant.
Ouais.
Et
moi, j'aime toujours mieux retrouver Yoshi que de me faire proposer un tout nouveau personnage. Tu sais, j'ai pas trippé Splatoon. Puis j'aime l'idée d'avoir quelque chose de nouveau. Je suis allé d'avoir toujours les mêmes suites, mais j'ai pas trouvé que les personnages et l'environnement et le design de Splatoon étaient attirants pour moi. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont trippé. Donc, tu sais, du côté de Nintendo, si on me ramène Yoshi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu.
Non, c'est cool. Non, c'est ça. Il est beau, en tout cas. Il est très joli. Splatoon, je ne sais pas si ses serveurs sont aussi pleins qu'ils l'étaient déjà.
Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que... C'est très difficile de juger la Wii U, étant donné que les ventes sont moins, là. Est-ce que les utilisateurs l'utilisent à fond ou ils la laissent entreposer avec la poussière? Je ne sais pas.
nous, depuis que Mario Maker est sorti ici, ça chauffe la machine. Ils s'en servent. Ils s'en servent. Les kids ont du fun. Puis
je pense pas que Yoshi va battre ça. Là. Je pense que Super Mario Maker va rester. J'ai pas vu. Je sais pas si les ventes sont sorties, mais c'est clair que ça a dû clencher un paquet de jeux PS4 puis Xbox One. Et certainement.
Les figurines Amiibo, ça pogne.
Ah, oui, parle-moi-en.
Ouais. Et là, Fiston a découvert qu'on pourrait prendre Yoshi puis l'amener dans Mario Maker aussi.
Ouais, mais même les Amiibo de. Ah ouais. Je sais que Megaman ou un Amiibo de Mario, si tu le mets dans Yoshi's Woolly World, ben là, Yoshi se transforme en Yoshi en laine selon les couleurs du personnage. C'est bien cute, ça relançait un peu le gameplay, mais bon.
Non, mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. C'est une belle, comment dire, un beau mélange des styles et des genres.
Oui. Et pour répondre à la question de Ben Charles Live, il vient de me demander, ben pendant qu'il me l'a demandé il y a 4 minutes, mais bon, c'est pas grave, on va répondre là. Il trouve que ça fait très Yoshi's Island, mais en plus beau. Oui, mais dans le sens que c'est un platformer, mais étant donné que la mécanique est complètement différente, les balles de laine, faut viser, faut tirer, on peut jouer à deux.
Ouais.
Non, ça reste un jeu nouvelle génération.
C'est
mais...
une réponse à Little Big Planet, tu penses?
Ouais, il y a peut-être... ben c'est sûr que l'aspect de Sackboy de Little Big Planet est un peu repris avec la laine, mais tu peux pas, du moins pour l'instant, faire tes niveaux comme dans Little Big Planet. Tu pourrais. Ils pourraient décider d'ouvrir ça, puis peut-être que c'est leur plan, si jamais le jeu a un bon succès, de faire une espèce de Super Mario Maker avec ce jeu-là. Ça se pourrait.
Il y a une belle licence entre les mains, pardon. Ouais. Mario Maker, là, ça peut ramener un peu d'argent dans les coffres sans problème.
Sérieusement, oui.
Ouais, intéressant. Monsieur Alexis, parlez-nous donc un peu du film qui s'en vient. Vous allez voir ça jeudi pour une station de télé, de radio plutôt.
Oui, effectivement. Avant, en fait, je veux te parler de Playboy.
Ouais. Ben moi, je voudrais que tu me parles avant de...
Écoute l'animateur. Quand il veut
parce que
entendre
là, je suis
parler
prêt à partir
film, là.
De là-dessus.
OK.
Il est dû pour mettre la vidéo. Là,
parce que j'avais fait la nouvelle qu'elle allait faire.
Bon, OK. Attends un peu. Vas-y d'abord, on va me replacer. Vas-y, parle-moi un peu
compliqué.
De Playboy.
C'est bon. Donc, Playboy qui a annoncé cette semaine qu'ils ne publieront plus de photos nues. Donc, le mois dernier, il y a Corey Jones de femme, oui.
Parce que d'homme, on ne sait pas.
On ne sait pas. Playgirl, on ne sait pas.
Peut-être.
Donc, l'éditeur du célèbre magazine est allé rencontrer Hugh Hefner, qui est officiellement l'éditeur en chef, encore à 89 ans, pour lui demander « Hey, penses-tu que ce serait une bonne idée qu'on ne publie plus de photos de femmes nues dans le magazine? » Donc, les centerfold existeront encore. Elles seront photographiées en pose suggestive, mais ne seront plus nues.
Mais ça donne quoi, regarde? Avec toute l'industrie du porn qui a envahi Internet, tous les sites gratuits qu'il y a là, des magazines comme ça sont appelés à mourir lentement, mais sûrement, non?
Exactement. En fait, le magazine est maintenant vendu à 800 000 exemplaires. Ils ont pris cette décision-là, pour différentes raisons. Il ne suivra pas les traces de son plus proche compétiteur, Penthouse, qui, eux, quand ça a commencé à descendre un peu à cause d'Internet majoritairement, eux ont décidé d'aller avec des photos encore plus suggestives. Et on n'en entend plus parler. Playboy a déjà atteint 5,6 millions d'impressions, même 7 millions pour un des numéros les plus populaires. C'était dans les années 70, en 1975. Et en comparaison à aujourd'hui, donc le 5,6 millions mis en comparaison aujourd'hui, il y a seulement 4 publications américaines imprimées qui font plus que Playboy, dont 2 sont des publications de l'Association des Américains retraités. Donc, du monde qui ne sont pas techno.
Oui, mais ils sont peut-être abonnés aux 2.
Ah, peut-être. Ou en tout cas, on aimait bien le magazine, on continue avec. Parmi les meilleures entrevues que la revue a obtenues, et c'est là que j'en viens à mon segue, il y a eu Ian Fleming, Jacques Kerouac, Ray Bradbury. C'est d'ailleurs, on fait la joke souvent de « Ah, je lis Playboy pour les articles », mais c'est vrai qu'ils ont eu des articles importants.
Il y a des entrevues avec John Lennon également qui ont été très, très
repris
par des journalistes par la suite. Tout ça. Puis c'est vrai qu'il y avait des reportages incroyables.
Mais à l'époque, c'était hot, le Playboy. Tu sais, quand t'allais au Playboy Mansion pour un party, t'étais content.
Je sais pas, tu y étais, toi?
Non.
Ah, c'est intéressant.
Tranche
de vie.
Une des entrevues qui a eu lieu en 1985 était avec quelqu'un qui venait de perdre sa job à ce moment-là. Et Steve Jobs.
Oui, justement, pour ne pas nommer son nom de famille.
Exactement.
Sa job.
Qui est devenu à ce moment-là président de Next. Et à l'époque, il a répondu aux questions du journaliste de Playboy dans une entrevue pour laquelle, on vient de le dire, le magazine est reconnu. On demande à Steve Jobs son opinion sur les nouvelles compagnies technologiques qui prennent la place de la vieille garde.
Qu'est-ce qu'il dit?
La traduction libre que j'en ai fait, c'est... là, il y a quelqu'un qui peut peut-être parler en anglais en sourdine en arrière. C'est inévitablement ce qui se passe. C'est pourquoi je crois que la mort est l'invention la plus magnifique de la vie. Elle purge le système des vieux modèles obsolètes. Je crois que c'est un des challenges d'Apple. Vraiment. Quand deux jeunes gens rentreront avec la prochaine affaire, allons-nous l'embrasser et dire que c'est fantastique? Allons-nous être en mesure d'abandonner nos vieux modèles ou allons-nous les repousser? Je crois que nous allons faire mieux, car nous sommes complètement au courant de ça et que nous en faisons une priorité. C'est drôle, en fait, la réponse qui a donnée au magazine, lui qui est mort depuis quand même 4 ans, et à chaque fois qu'Apple est dans l'actualité, on le ramène pour dire « Est-ce que Steve Jobs aurait fait ça? » Et lui dit au magazine « Hey, quand quelqu'un meurt, c'est pour faire la place au nouveau, là, comme... »
Ouais, c'est...
Pour... Bon. Donc, c'était son entrevue. Et parlant de Steve Jobs, c'est là que tu voulais m'amener, le film de Danny Boyle, réalisateur de Trainspotting et Slumdog Millionaire, écrit par Aaron Sorkin, qui a fait l'excellente série Newsroom, que ceux qui n'ont pas écouté, vous pouvez commencer saison 1 après le show. Il a écrit aussi Social Media, le film Social Network, pas tout à fait sur Facebook.
Ben non.
Pas tout à fait approprié. Librement
inspiré de.
Oui. Mais oui, The Newsroom, je suis d'accord avec toi. Puis, donc, je peux même renchérir sur. Il y a une vidéo sur YouTube, si vous avez le temps de chercher ça. Les Sorkinism.
Oui.
C'est vraiment décourageant parce qu'on se rend compte que Aaron Sorkin, qui a écrit un paquet de téléséries, utilise des clichés, mais vraiment des phrases, de la façon de structurer le texte, les répliques identiques. Dans un paquet de ces téléséries toujours et pareil. Certains films, fait que c'est un peu décourageant.
Il y a toujours son espèce mais de c'est vrai que met de l'avant.
Moi, j'ai surtout, il y avait West Wing, mais j'ai surtout suivi The Newsroom, puis j'ai trippé. Mais là, maintenant que j'ai vu ça,
c'est fatigué un peu.
Puis qui va jouer le rôle de notre ami Jobs?
C'était supposé être c'est Batman. C'est Michael Fassbender qui va le faire. C'était supposé être Christian Gate. Probablement qu'en entendant...
Christian Bale.
C'est une vidéo sur YouTube pour les gens qui ont le temps. Non, j'en prends du temps. Donc, Christian Bale, on l'a entendu sur Terminator, péter une coche, donc il aurait fait un très bon Steve Jobs. C'est Fassbender qui va le jouer. Woz a donné son approbation au film. Il explique que c'est pas la réalité, mais c'est une bonne interprétation à propos de la personnalité des personnages. Donc,
Seth Rogen qui va jouer son rôle.
C'est Seth Rogen qui va jouer le rôle. C'est un rôle un petit peu différent. Parce que Seth Rogen joue souvent Seth Rogen au cinéma. Là, c'est comme...
C'est un cliché.
C'est assez propre à certains acteurs d'essayer des acteurs qui ont fait beaucoup de comédies, humoristes, etc., d'essayer d'être un peu plus sérieux. Pas Seth Rogen, là, mais
Adam Sandler avec Punch Drunk Love. Will Ferrell.
Le gars qui est en Freaks and Geeks, là, j'oublie le nom, mais en tout cas, bon. Continue.
Chris Pratt avec Guardians of the Galaxy. Oui, je comprends. Oui.
Ouais. Donc, on se trouve où dans l'histoire? Sais-tu?
On va montrer des moments glorieux et un peu moins glorieux de...
Trois lancements de produits, je pense.
Trois lancements de produits, exactement. Donc, une demi-heure avant trois lancements de produits épiques pour Apple. Donc, je pense que c'est le iMac, le iPod et le Mac... en 1984, mais je
ne
sais pas.
Ouais, le iMac.
iMac 98.
Le iPod
98.
Et le Mac de 84, d'accord.
C'est ça.
Parce que tu as dit iPod, puis genre, j'ai vomi dans la bouche, mais j'ai ravalé après.
En 2001, qui ont annoncé le iPod, puis c'était quand même un shift important pour Apple.
L'iPod a vraiment révolutionné. C'est drôle, aujourd'hui, on regarde l'iPhone, puis on se dit, man, c'est tellement plus... Mais à l'époque, l'iPod, ça sortait de nulle part, puis ça a vendu comme des petits pains chauds.
Moi, j'aurais aimé ça que le iPhone y soit. Je trouve que c'est une des meilleures...
Il est encore trop, je trouve.
Trop récent?
Oui, c'est récent. C'était en 2006. Là.
Mais c'est quand même une des meilleures présentations. Là, au début, là, quand tu dis on présente trois nouveaux produits aujourd'hui, là, la tablette Internet, le iPod puis un téléphone, puis il répète jusqu'à ce que le monde catch dans la salle. Oui. C'est la même affaire. C'est malade. Là, ça... J'en parle puis j'ai les poils qui dressent.
Il est sur les pins, mesdames, messieurs.
Il est sur les hautes. Michael Fassbender. Oui, vas-y. Je suis moins convaincu, Michael Pourquoi? Fassbender. Physiquement, je trouve qu'il ressemble moins. Puis pourtant, c'est quoi le film iJobs qui est sorti? Là, ouais. C'est quoi le nom de l'acteur déjà? Là?
Ben, c'est pas iJobs. Ouais. C'était la parodie.
Non, c'est la parodie. Mais Ashton Kutcher a fait
c'est
Jobs.
C'est juste Jobs, oui.
Il ressemblait plus.
Physiquement, ouais. c'était vraiment à s'y méprendre. Puis ça m'avait surpris, moi, le premier. Je trouvais qu'il n'y avait pas rapport là-dedans.
Il avait travaillé très, très fort, en fait, sur la gestuelle puis tout ça là, il avait travaillé très fort
le film est pas particulièrement bon mais la performance de Kutcher m'avait surpris. C'est pas à cause de sa performance.
Ah, j'ai sorti une photo de Kutcher.
Oui, il y en avait une où ce qui divisait avec le visage de Jobs, ouais, là, c'était hallucinant.
À l'époque, parce que pour ceux qui le savent pas, il y a un premier film qui a été fait back in the days avec Noah Wiley dans le rôle de Jobs et Anthony Michael Hall dans le rôle de Bill Gates.
Pirates of Silicon Valley. Excellent film. Et justement, Noah Wiley, physiquement, ressemble énormément à Steve Jobs.
Exactement.
Moi, dans ma tête, j'étais convaincu que c'était impossible à battre. Puis ça s'est drôlement rapproché avec justement Ashton Kutcher.
C'est incroyable. Hein? Il ressemble, c'est incroyable.
Noah Wiley, cette année-là où le film est sorti, avait été invité, il avait fait un petit sketch au début d'une présentation de Apple où il rentrait sur scène habillé en Steve Jobs et commençait à faire la présentation. Steve Jobs débarquait, lui dire « Non, 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 c'est pas comme ça, tout ça ». Et il y a un petit segment, les présentations
sur YouTube.
Exactement. Les présentations de Apple sont réglées, comme on le dit tout le temps, au quart de tour. Et je pense qu'il y avait eu une petite improvisation de Noah Wiley qui, en sortant de la scène, avait repris une des phrases du film qui est « Quand Steve Jobs passe des gens en entrevue, leur demande s'ils sont vierges. » Et en sortant de la scène, il s'est retourné puis il a demandé à Steve Jobs « Are you a virgin? » comme pour faire... Mais il a fait ça devant tout le monde là-bas, puis ça a comme...
Ça a créé un petit froid.
Peut-être, je ne sais pas exactement là, comment ça a été.
Un parallèle intéressant à faire, justement, parce qu'on parle d'un film de Sorkins, de Social Network.
Oui.
Le dude de SNL qui faisait... Attends, il était-tu de SNL? Mais celui qui faisait... Voyons. Mark Zuckerberg.
Non, c'est pas... Ouais, okay.
Non, je le sais, mais lui, ils ont fait... Facebook a fait exactement la même chose au F8 il y a 2 ans ou 3 ans, je pense, l'année où ce que le film est sorti.
Ah oui, OK.
Ce comédien-là est rentré et il a fait semblant d'être Mark Zuckerberg pendant une minute ou deux.
C'est le gars de Lonely Planet. C'est Adam... comment il s'appelle?
Bref.
Il fait une série.
Ça, c'est fait.
Puis, effectivement, il faisait souvent Zuckerberg à SNL. Puis, ils l'ont invité.
Là, moi, je vous propose d'écouter la bande-annonce, de regarder cette fameuse bande-annonce To The Go, les amis. On regarde ça ensemble. C'est Steve Jobs, le film prend l'affiche dès vendredi. Et il y en a qui vont le voir le jeudi. Il va y aller. Il va nous en parler sûrement mardi.
Oui.
Hein? OK, regarde ça.
Tellement de journées.
Ben oui. Ouais.
Non, il part, toi. Part, j'ai dit. Ça va partir le moment donné. Ah oui. Oh.
Mais est-ce que notre audience est appropriée?
Thank you for coming. We're going to make some history together today.
Steve Jobs had one speed, full on.
I saw my first computer when I was 12. I was so fascinated by this.
Time magazine says single-handedly he created the industry.
Working in this garage, Steve Jobs and Steve Wozniak built the first Apple computer board.
It was the magic. We could influence the world.
Hello, I am Macintosh.
He wanted to have a foot in both worlds. He wanted to be the renegade, but he also wanted to be legit.
This is a 21st century bicycle.
He was on a mission.
Can we help you express yourself in richer ways?
He made the iMac.
Can you see it?
He made the iPod. He made the iPhone.
Isn't this awesome?
He's made everything.
His stuff was beloved.
Vous avez deviné que c'était le documentaire ici.
C'est mêlant parce que documentaire-là vient de sortir en vidéo sur demande. Ouais. Donc, les dates de sortie correspondent. Fait que
je me suis trompé.
L'erreur est humaine.
Donc, il s'appelle Steve Jobs. Si vous le trouvez, attends un petit peu. Pendant que...
ce film-là, en fait, Apple et évidemment la succession de Steve Jobs n'est pas trop content parce qu'on essaye de nous le dépeindre. Si on avait continué un petit peu dans le preview, on aurait vu à un moment donné là, une espèce de switch vers le dark side pour nous présenter plus le côté tyran, le côté...
Oui, le nom du film, c'est Steve Jobs, The Man in the Machine. Ça, c'est le documentaire, le trailer qu'on vient de voir.
Ouais.
Donc, ça, c'est supposé d'être sorti... c'était quand ça sortait?
Peut-être un mois et demi, quand
ouais,
même.
Oui, c'est ça.
Bon, l'autre, je ne le trouve pas. J'aurais aimé ça vous le montrer.
4 septembre. C'est sorti le 4 septembre, celui-là.
OK, biopic. Ben... C'est ça, c'est un biopic de Steve Jobs. Oui. Halluciné. Bon, en tout cas, on regardera ça. Je pensais avoir trouvé le bon extrait, mais ce n'était pas le bon. Ça semble intéressant quand même.
Peut-être le trouver sur IMDb. Vraiment.
Ouais, voilà. Moi, je tripe documentaire. Puis vraiment, depuis que j'ai...
Netflix.
Depuis l'arrivée de Netflix, j'en ai gobé. Puis il y en a beaucoup de mauvais, mais il y en a d'excellents. Puis quand t'en pognes un excellent, puis qui parle d'un sujet qui t'intéresse. Moi, je suis du genre à gratter. J'adore ça.
Intéressant.
C'était ma tranche de vie.
OK. Je ne trouve pas. Bon, c'est pas grave. On reviendra là-dessus une autre fois. Jeudi, tu vas le voir. Mardi, tu nous en parleras.
Tout me
donner
fait,
un peu ton feedback là-dessus. Tu voulais nous parler aussi d'un jeu de zombies, mais garde ça pour un peu plus tard parce que notre ami, lui, va nous parler de Facebook qui expérimente des trucs en ce moment.
Facebook expérimente un paquet de patentes. Je vais vous parler d'abord. La semaine dernière... Depuis un certain temps, on savait qu'il allait avoir un fameux bouton « Je n'aime pas ». Mais la semaine dernière, ça a été présenté officiellement par Facebook. Finalement, il va pas avoir de bouton « Je n'aime pas ». Puis c'est un peu comme ce que Zuckerberg avait dit. Il travaillait sur une solution. Donc la solution, c'est des espèces d'émoticônes qui ressemblent drôlement à ce qu'on peut voir, par exemple, sur BuzzFeed ou d'autres sites. Donc on a un visage très heureux, un visage souriant, surpris, triste ou fâché. On a un cœur. Le cœur peut être approprié quand il y a, par exemple, un statut où tu annonces le décès de ta mère, ta grand-mère, quelque chose. Bon, tu donnes ton cœur. Parce que tu ne veux pas liker ça, dire « Ah, c'est une bonne chose avec le pouce en l'air, ça n'a pas de sens. » Mais le cœur, ça, c'est un peu plus approprié, à mon avis.
Ou quelqu'un qui pleure.
Donc, Facebook a lancé la mise à l'essai vendredi dernier en Espagne et en Irlande. Fait que c'est vraiment en test pour l'instant. On ne sait pas quand est-ce que ça va être déployé à tout le monde. Mais ça s'en vient, c'est intéressant. Ça, c'est une chose. Là, on a une nouvelle chose aujourd'hui qui a été annoncée.
C'est quoi?
Il appelle ça un vidéo feed. Donc, une espèce de fil d'actualité ou une section qui serait dédiée à la vidéo. Parce que Facebook, on a compris ça depuis plusieurs mois, je pense, est assez obsédé par la vidéo, convaincu que la vidéo va changer son réseau social et que ce sera inévitable. En même temps, on a l'Oculus Rift qui s'en vient, un produit d'Oculus qui appartient à Facebook. Donc, on veut pouvoir intégrer ça. On va avoir une section dédiée aux vidéos. Donc, il va y avoir une espèce de page. Ça va être dans l'application mobile. On va avoir une icône vidéo dans le centre. Donc, à la place de Messenger, ça va être vidéo. Puis, on va pouvoir cliquer là-dessus, voir certains carrousels avec des catégories.
C'est ça,
vidéo partagée.
C'est ça, ouais.
Oui, ça, c'est la vidéo qu'ils ont présentée aujourd'hui. Donc là, on voyait les carousels. On a comme... vos vidéos sauvegardées, les vidéos partagées par vos amis, les vidéos des pages auxquelles vous êtes abonnés et les vidéos récemment visionnées. Il y a également un mode PIP, Picture in Picture, qui va être intégré exactement comme YouTube et comme Google a fait avec YouTube il y a un an ou deux. Donc, possibilité de continuer de naviguer sur Facebook tout en regardant une vidéo en même temps. C'est intéressant, puis ça démontre à quel point que Facebook prend la chose au sérieux. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment juste en test sur le web, puis on ne sait pas... Facebook, chaque fois que Facebook annonce une nouvelle fonctionnalité, de toute façon, il nous montre juste l'application mobile.
Mm-hmm.
Ça existe sur le web, mais on ne sait pas de quoi ça va avoir l'air. Donc, ils sont en train de tester pour le web, pour iOS. Ça va arriver sur Android dans quelques mois. Donc, c'est vraiment les balbutiements. On est au début de cette section-là. Ils sont heureux du résultat, mais on risque d'avoir ça peut-être vers la fin de l'année ou peut-être à temps pour le lancement de l'Oculus, qui sait.
J'ai hâte de voir comment ils vont l'implémenter, l'Oculus, dans leur affaire.
Il y a déjà les vidéos 360 degrés, donc je ne sais pas.
Ouais.
Mais l'interface est due pour être remaniée. Peut-être que Facebook prépare une interface intéressante.
OK, quelle est la politique que tu affectionnes le plus au niveau du graphisme, l'helvétique?
moi, c'est helvétique all the way, mais mon problème avec Facebook, c'est que tout est écrit trop petit.
Ouais.
Avec les écrans qu'on a, je veux dire, pour la version web, ça va là, sur le téléphone, mais là, peut-être que c'est moi qui est vieux aussi, mais maudit que je trouve que tout est écrit petit. Là. Quand tu vas sur des articles de journaux, n'importe, tout le texte est tout le temps plus gros que ça, juste un peu plus gros.
Puis je sais que je peux zoomer, mais je veux dire...
Sans zoomer, là, tu aimerais savoir quelque chose.
Non, mais il y a moyen de remanier ça, puis je crois qu'ils vont nous offrir quelque chose d'intéressant. Il y a des designers qui sont amusés à faire des propositions. C'est pas parfait, mais oui, c'est clair qu'il y a place à l'amélioration.
Intéressant. Tu voulais parler d'un jeu de zombies basé sur la série Walking Dead qui s'est téléchargé à combien de copies, cher Alexis?
C'est sorti la semaine passée. C'est 1 million de copies pour cette série-là. J'étais en train de regarder, en fait, sur Wikipédia pour donner un ordre de grandeur à ça.
Donc, 1 million, c'est 1 avec 6 zéros, c'est ça?
Oui, mais...
Mais ça donne une idée.
Oui, tout à fait. Maintenant... comme ça, Punch-Out, en 1987, combien ça se serait vendu de copies?
Ah, clairement moins que ça, là. Je veux dire, on est complètement à une autre époque.
Oui, mais c'est 2 millions quand même.
Ah, Punch quand out. Même!
C'est probablement
quand
dans toute son histoire. J'étais en train de regarder Pokémon Snap, 2,72 millions. Puis Shrek 2, bon, c'est pas un bon jeu. Need for Speed Underground 2. Je sais pas, parce que c'est dans la liste. Là. C'est Nintendo GameCube en 2004,
cette
Shrek
liste-là,
2.
Là.
C'est Wikipédia.
Bon, là, on s'éloigne un peu. C'est le jeu qui met en vedette qui, ça?
C'est une équipe, en fait. C'est pas les personnages du jeu.
Il y a un personnage?
Il y a un personnage du jeu qui est là, qui est Norman Reedus, qui Daryl. Est celui Daryl, mm-hmm. qui a l'arbalète dans l'émission.
C'est lui notre coach. C'est lui qui est rendu le chef, si on veut, là-dedans.
OK.
Et là, on joue live pendant qu'on en parle. Alors,
on a notre propre équipe. C'est du tour à tour.
Tour par tour.
J'ai pas eu le temps, honnêtement, de jouer. Je trouvais ça impressionnant qu'un jeu sorti pour une série télé soit téléchargé autant que ça. Toi, t'as joué un peu?
Ouais, je commence à y jouer, là, puis je trouve ça intéressant comme jeu.
Alors, c'est complètement différent de...
Des caméras.
On s'entend que la télésérie avait eu des jeux de Telltale Games, il me semble, qui étaient sortis sur iOS.
Mais c'était un jeu de Walking Dead, mais ça n'avait rien à voir. C'était comme une... Parce qu'ils prennent jamais, que ce soit Back to the Future ou d'autres, ils prennent jamais l'histoire originale. Ils te font...
Ils te font
jouer comme quelque chose d'autre. Genre, Games of Thrones, t'es une autre famille.
Ben, c'est quasiment une déclinaison parallèle.
Oui.
Là, on a vraiment un jeu avec des fonctionnalités...
c'est pas juste comme un roman graphique
amélioré. C'est quasiment ça, Telltale Games, des fois. Là. Ouais.
Mais ça, c'est le fun, c'est intéressant, parce qu'il faut bâtir vraiment sa base, y aller morceau par morceau. Il y a une radio dont on se sert pour appeler les survivants. Est-ce qu'on les engage tous? Est-ce qu'on les rentre dans le camp tous? Est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce qu'ils vont nous profiter de notre sommeil pour nous voler?
OK, quand tu parles de fiabilité, tu parles juste d'être gentil ou méchant. Tu parles
exactement.
Pas d'être infecté, possiblement, et développer le zombisme plus tard.
Non, c'est ça.
Je pense que je vais spoiler personne en disant que tout le monde est infecté dans le monde de Walking Dead. Dès que tu meurs, tu deviens automatiquement...
Oui, je sais, mais je sais. Bon, donc, pas tout le monde, vu qu'il y a des vivants encore.
Oui, mais c'est ça.
On va essayer de m'approcher.
Ta situation sine qua non, il faut que tu meurs pour revivre.
D'accord.
Ouais. Oh, il y en a un autre qui arrive là. Il va me faire maganer. Ah oui, toi, viens donc ici.
Ce que je trouvais intéressant, en fait, au niveau des chiffres, c'est clairement un jeu casual gamer en opposition à ce que Radio Talbot parle souvent. On couvre tous les jeux, mais on couvre beaucoup plus. Les gens qui sont ici sont des gamers, sauf peut-être pour ma part. Là, je suis moins gamer, j'ai moins de temps à mettre à ça. Donc, je trouvais ça intéressant parce que c'est quand même un segment de marché qui est immense, le casual gaming. Et souvent, en fait, on le regarde peut-être un petit peu de haut, mais ça fait vivre des compagnies qui vendent des paquets de gold. Pour combien?
Attends,
si
on va
je
voir
veux
ça,
là, rapidement là,
t'en as jusqu'à
améliorer. 100, là,
t'en as jusqu'à 120 $ ou 119 $ là, pour acheter de l'or qui est la monnaie du jeu.
Oui, mais ça, c'est vrai pour un paquet de jeux. Puis c'est pas parce que tu peux dépenser cette somme-là que c'est nécessaire. Là,
non.
On n'a pas essayé encore le jeu, mais on va savoir à quel point il est bien équilibré à ce niveau-là, s'il y a moyen de progresser sans avoir à payer quoi que ce soit. Là,
j'ai rien payé jusqu'à présent.
Oui.
Et puis, je m'amuse. Hein.
Tu te sens pas bloqué autrement, mais c'est sûr qu'on est, en début de jeu.
On commence, c'est ça.
On t'accroche habituellement dans ces jeux-là, puis après ça, tu veux avancer. J'en ai un auquel je suis en train de jouer, moi, puis je suis arrivé à une place où ils mettent une barrière électrique devant moi. Si tu veux passer ces 20 runes, c'est-à-dire 5 jours à attendre après des runes, ou paye. Puis ça, j'avoue que j'ai bien de la misère avec ça.
Donc,
C'est un cutscene.
Oui, c'est ça. Puis là, on va retourner à la base. C'est là qu'on va pouvoir regarder combien ça coûte.
Améliorer nos trucs.
Là, tout ça. Une fois que tu as fini, il faut que tu débarres des coffres. Tu y vas de façon aléatoire.
Si tu en ouvres trois qui donnent pareil, tu as un bonus de quelque chose. Bon.
OK, c'est comme une espèce de casino.
Regarde, là, je peux en acheter plus si tu veux. Tu vois, ça commence à 3,49. Pour 500, c'est 5,79. C'est à peu près, regarde, c'est 10 %. Tu vois, c'est 12 piastres.
La problématique avec ça, c'est que les premiers jeux avec des in-app purchases sont arrivés avec un modèle d'affaires on dépense jusqu'à 119 piastres. Il y a certains jeux qui, eux, ont fait, écoute, on va pas être aussi greedy, regarde, si tu mets 25 piastres, 22 piastres, on va t'ouvrir tout le jeu au complet, ou tu sais, tu vas pouvoir aller partout, faire tout, puis avoir tous les pouvoirs. 119 piastres pour un jeu casual gamer, c'est intense et je trouve
c'est pas nécessaire.
C'est pas obligatoire.
C'est pour quelqu'un qui veut tout avoir de débarrer tout de suite. Quand t'achètes un jeu, par exemple, bon, regarde, Grand Theft Auto 5, je viens de l'acheter, puis il a fallu que je le paye 70$, je le voulais neuf.
Oui, c'est un jeu que tu sais que tu vas avoir long gaming.
Quand je rentre dedans, j'ai pas tout de débarrer. Hein. Mais non, mais toi, tu dis, j'aurais aimé ça pouvoir payer genre 15 ou 20$ pour tout avoir débarré.
Ce que je dis, c'est qu'un modèle d'affaires basé pour un jeu casual qui va te faire répéter encore et encore et encore,
ils peuvent
essayer toujours la même chose.
Le jeu est conçu et mal équilibré, puis on se rend compte, Denis se rend compte après avoir joué 3-4 heures qu'il est bloqué complètement, puis que c'est très difficile de pouvoir progresser ou d'accumuler la monnaie à l'intérieur du jeu pour pouvoir acheter des nouvelles armes, puis pouvoir continuer. Là, je vais être d'accord avec toi, mais je veux dire, ils ont le droit d'essayer, puis tu as cassé la gueule. J'ose croire que ça a été pensé.
Par exemple, ton jeu, il y a un mode... Tu parles de Grand Theft, il y a un mode History, et à la fin du mode History, il y a ça paye. Je veux dire, tu finis l'histoire, puis on te donne un closure, on te donne une conclusion.
J'ai hâte d'avoir 2,5 millions de
spoilers! Tu parlais de Fallout Shelter tout à l'heure. Il n'y a pas de closure. Tu arrives à la fin,
c'est pas le même genre de jeu.
Il se passe rien.
Là, je veux dire.
Non, je sais, mais...
Sauf que tu chiales pour rien.
Non.
Moi, je veux dire, je connais ça, le chialage. Là. C'est faible. Ce que tu dis est faible.
Non, c'est pas faible.
C'est chiant, ça.
Oh, c'est une blague.
C'est bien. Donc, c'est ça que ça donne comme jeu. C'est intéressant. Ça, on reproduit bien l'univers. On sent la tension. On sent qu'on est vraiment désespéré et que ça commence doucement pour par la suite se corser et nous faire probablement dépenser des sous.
Fait que The Unit Approved, peut-être?
On va jouer un peu plus. Ouais. On va jouer un petit peu plus, puis on va regarder ça. Lui, il est gros, il a 15 points. Attends un peu.
Reviens.
Attends un peu, ce sera pas long. Bang! OK, ça, c'est bon. Puis là, il va ouvrir la porte, puis il y a sûrement des zombies là-dedans. Là, on s'en va vers ceux qui ont écouté l'émission ou regardé l'émission à la télé ou sur Netflix. On s'en va vers le terminus libérer les gens qui étaient dans les containers.
Ça respecte vraiment la trame narrative de la série. Genre, là, on est dans saison 1, j'imagine.
Il y a pas fin qui sort de là. Ouais, c'est la saison. Si on est allé au container, c'est la saison 1, 5.
C'est saison. Ouais, c'est ça.
4, 5. Là. Attends un peu. Lui, on va le tirer.
D'ailleurs, en fait, la série télé vient de recommencer, mais on a eu cet été, un petit peu plus tôt, une autre série basée sur Walking Dead, qui est Fear the Walking Dead, qui est le début de l'infection, qui est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu, parce que ça commence à l'hôpital et l'apocalypse
dans le fond,
est déjà passé.
C'est 28 Days Later, mais
c'est ça, exactement.
Mais sur AMC. Okay.
Mais c'est non. Intéressant comme petit jeu, c'est gratuit pour le moment, avec des achats bien sûr au fur et à mesure qu'on avance. Il est un peu confus lui là, mais il va revenir. Alors, j'ai une nouvelle fille ou une nouvelle gosse, c'est un gars, excusez-moi. Et puis manage, pas d'emplacement disponible. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Je peux accélérer sa guérison, mais il faut que j'achète des trucs encore une fois. Intéressant comme petit jeu, j'ai hâte de jouer davantage pour savoir si éventuellement on devrait débourser plein d'argent pour pouvoir avancer dans ce jeu-là, mais ça n'a pas l'air. Il faut être patient, il faut y aller avec parcimonie et s'amuser.
Oui, comme des fois, tu peux mourir trois fois, puis pour pouvoir continuer, il faut que tu attendes une heure, demi-heure.
C'est ça,
exact. C'est un peu agaçant, mais c'est correct. Mais,
D'autre part, monsieur, paraît-il, on a parlé un petit peu l'autre fois, la PS4, là, va-tu baisser le prix? On a eu bien des courriers. Quand est-ce que ça va baisser de prix? Combien?
Là, j'ai fait la nouvelle, la rumeur, en fait, j'ai dit que ça ne baissera pas de prix au Canada, parce que logiquement, ça n'avait pas de sens. elle se vendait 450$, puis quand on traduisait 450$ en dollars américains, on tombait au prix genre près de 360$ US, 350$ US, quelque chose comme ça.
Okay.
Donc, on avait déjà la console à rabais parce que la devise canadienne est faible. Mm-hmm. Mais ils ont décidé de baisser le prix pareil. Là, les gens chialent. Bah, ils ont baissé de prix seulement de 20$. Donc, elle est passée de 450 à 430$. Mais lorsqu'on fait la conversion, ça revient à 330$ US. Donc, lorsqu'on fait abstraction de la devise canadienne, ouais, la valeur, on l'a pour moins cher au Canada. Parce que ça coûte moins cher pour nous. Mais bon, faudrait que les salaires soient ajustés. Mais on comprend. Un Américain pourrait venir au Canada, il faudrait juste qu'il gaspille genre 20 ou 30 piastres de gaz pour arriver kiff-kiff, mais il l'acheter moins cher puis se payer un voyage. Mais en tout cas, c'est ça. C'est juste que je trouve ça drôle. On l'avait déjà moins cher. On l'a encore moins cher. Puis c'est sûr que ça sera jamais aussi bas qu'à son lancement. Parce qu'en novembre 2013, elle se vendait 400$ canadiens. Elle a augmenté de prix en mars qui a suivi parce que la devise canadienne a chuté. Donc, pour l'instant, ça, c'est vrai avec un paquet de trucs. Il y a eu les nouveaux iMac qui ont annoncé aujourd'hui. Au niveau prix, tout est plus cher parce que le dollar canadien est incroyablement faible par rapport à ce qui était avant. Je ne vais pas faire de politique, mais on peut peut-être se poser des questions, savoir s'il y a un responsable. Puis, s'il y a moyen de changer pour voter puis faire quelque chose.
Est-ce que tu es en train de parler de mettre tes œufs dans le même panier puis faire d'argent sur du pétrole? Mettons, là.
Ben moi, je suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de peut-être me dire qu'il y a quelqu'un qui a peut-être fait ça.
OK.
C'est ça. Hey!
Hey! Bonsoir. On voit ce soir de la simple malte. Mm-hmm. C'est la F. Weizen. Moi, j'ai de blé bavaroise.
Moi, j'ai la tête chercheuse.
Oui, c'est solide.
Oh, non, je l'aime bien.
Ouais.
J'ai la blé bavaroise aussi.
Super bonne.
Ouais. Oui.
J'ai eu le choix. J'ai aidé Denis avant l'émission. Je suis arrivé plus tôt. Je l'ai aidé dans la première, donc j'ai eu le droit de prendre la bière.
Choix
de bière.
Yes. Ben, regarde, premier donc. Choix.
Oui, au premier choix, non pas le meilleur.
Non.
Parce qu'elles sont toutes bonnes.
Ah, c'est ça, elles sont toutes égales. Toutes ouais. Comme nous autres.
Merci beaucoup à Simple Malte. Demain, je m'en vais tourner chez Marina. On fait un spécial photographie qui va être présenté un peu plus tard la semaine prochaine, j'imagine.
Oui.
Et ce qui m'amène à parler, j'ai souri en voyant ça, parce que les appareils téléphoniques, les téléphones intelligents deviennent de plus en plus performant.
Oui, là on va mettre des gros gants blancs
parce que tu vas
y a peut-être des fans qui vont nous sauter au cou, mais j'imagine que tu vas en venir à ma nouvelle.
Exactement. Donc, c'est plus performant qu'un... C'est les gens qui ont des Nikon, ils vont t'aimer. Que la Nikon D750.
Oui, mais les soirs de pleine lune, les fins de semaine, un jour impair. non, mais dans certaines conditions.
Idéal.
Dans les conditions idéales, l'iPhone 6S est en mesure de capter de meilleures vidéos que la Nikon, ou le Nikon plutôt, c'est un appareil photo, D750. Bon, d'abord, Nikon n'est pas réputé pour ses capacités vidéo avec ses appareils.
Non.
OK, mais là, c'est un photographe qui a fait un test. Le photographe n'est pas payé par Apple, il n'est pas payé par Nikon non plus, il adore les produits Nikon.
C'est un indépendant.
C'est un indépendant, puis lui, il a fait le test, puis en fait, il est frustré. Puis ça paraît dans sa vidéo, quand il montre les images, on voit clairement que les vidéos prises avec l'iPhone 6S en 4K qui ont été réduites à 1080p sont plus belles que les images vidéo qui ont été tournées en 1080p avec son Nikon D750, un appareil qui, selon l'équipement qui vient avec, l'objectif, etc., peut coûter de 2000 à 3000$.
Wow.
Puis là, tu as un iPhone qui, oui, c'est cher, mais c'est pas 2000-3000$. Donc, lui, ça l'irrite parce que ça fait longtemps que... Puis même de la façon qu'il dit, Lee Morris, il parle de téléphone intelligent. Il l'a testé avec un iPhone parce que c'est ça qu'il a. Mais il sait très bien que Sony fait ça sur Android depuis longtemps. Samsung aussi offre la capture 4K. Donc, c'est arrivé, cette technologie-là est arrivée avec les téléphones intelligents qui sont beaucoup plus abordables que des appareils photo DSLR. Puis... ces appareils-là n'ont toujours pas cette capacité-là. Même Canon, la seule DSLR que ça, c'est la EOS EDC. Puis elle se vend genre 8 000$ juste le body. Juste le boîtier, tu n'as pas d'objectif. Donc, c'est sûr que je pense qu'on dirait qu'ils dorment un peu au gaz à ce niveau-là. On travaille sur le boîtier, on rend ça plus compact. D'ailleurs, Canon a annoncé des nouvelles caméras ce matin. Mais en termes de technologie...
La bonne vieille technologie.
C'est un peu pépère. Non, mais depuis qu'on a atteint 20 mégapixels, ouais. Là, ça va. On va améliorer le processeur à l'intérieur. Mais pourquoi faire de la vidéo haute définition? On veut pas cannibaliser les ventes de nos appareils vidéo. Nikon en fait pas, mais Canon fait des caméras vidéo, puis évidemment, ils veulent pas, veulent peut-être pas affecter ces ventes-là.
Au fur et à mesure de l'évolution du iPhone et des autres téléphones intelligents, on a vu que, chez Apple, c'est très, très clair, à chaque fois qu'on sortait un nouveau téléphone, on attaquait un segment de marché du bas de gamme. Donc, l'appareil photo point and click. Après ça, ça a été la flip. Je ne sais pas si tu te souviens, la caméra vidéo que beaucoup de blogueurs utilisaient
Elle faisait du 720p alors que l'iPhone ne faisait rien de ça jusqu'à ce que l'iPhone fasse ça.
Exactement. Ouais. Cette année, on sort l'iPhone avec vidéo 4K. Clairement, on est en train de regarder du côté de la GoPro. Je ne dis pas que la GoPro devient désuète à cause de la sortie du téléphone.
Non,
je
ne
vais pas m'en
ça.
Mettre une sur le casque puis commencer à descendre.
Mais il y a moyen, je veux dire, par exemple, il me semble qu'on en avait parlé, là, l'espèce de pistolet en plastique dans lequel on mettait un téléphone ça faisait comme une Super 8. Mm-hmm. Je veux dire, physiquement, ça peut marcher avec un CCS étant donné que les dimensions n'ont pas vraiment changé. Facile de patenter un casque dans lequel tu glisses ton téléphone puis il y a un jeu de miroir qui fait en sorte que ça voit devant toi puis ça n'a pas l'air fou.
Mais... moi, je fais de la photo. Ça fait des années. Je suis équipé avec une boîte, une bête. Là. J'adore.
Tout à fait. Puis, non, mais je l'ai clairement dit en plus en début d'article que ça n'a rien à voir.
Je sais que ça n'a rien à voir. C'est pas ça que je veux dire. C'est que je m'en sers presque plus.
C'est intéressant.
Je prends.
Mais c'est pareil pour moi aussi.
Parce que tu peux arriver à faire de belles images. Quand
tout à
même.
Fait.
Puis quand tu sais cadrer, puis tu sais comment te servir un peu de la lumière, tu peux faire des choses.
C'est sûr que si tu restais avec ton objectif de base, le 15-35 mm, whatever, là, puis tu jouais avec l'ouverture, puis tu zoomais pas, parce que moi sérieusement, zoom optique, j'aimerais savoir ça. Là. Mais oui, hey man, on peut faire d'excellentes photos avec le téléphone, puis il y a plein de photographes qui sont d'accord avec ça. Mais. Quand tu veux faire de la composition, c'est clair que ça te prend un vrai appareil photo.
Exact.
Le gars qui fait les vidéos, le gars que tu as mis dans ton vidéo, il en fait beaucoup pour pousser en fait la photographie vers le iPhone. Il en a fait un il y a une semaine et demie avec. Il en avait fait un l'année passée. Le monde lui a dit c'est sûr, tu prends des belles photos, tu as pris une pitoune pour faire des photos. Et il a refait un peu la même chose. Il a dit, je vais prendre ma voisine. Il s'avère que sa voisine est mannequin. Mais, je veux dire, avec la composition, en disant, bon, mais vous rajoutez de la lumière, vous faites ci, vous faites ça. Il donnait des trucs de prise de photo parce que...
Tout à fait. Puis ça marche avec même un iPhone.
C'est ça.
C'est juste que quand vient le temps de... Avec un appareil réflexe, quand... Tu peux choisir l'ouverture, tu peux choisir la sensibilité de l'ISO. Il y a plein de choses de paramètres avec lesquels tu peux contrôler. Puis sur un téléphone, même avec certaines applications qui permettent un peu de jouer là-dedans, c'est jamais pleinement la même chose, évidemment.
Quelqu'un qui est photographe, c'est-à-dire quelqu'un qui a ce talent-là, cette expertise-là dans l'œil, va prendre n'importe quel appareil photo, il va être capable de savoir qu'il faut que ce soit bien éclairé, savoir comment il faut que ce soit bien éclairé.
Mais...
Et ça n'a strictement rien à voir avec l'appareil photo que tu achètes.
Tu peux avoir
souvent.
C'est tout.
Regarde, si ça n'a rien à voir avec l'appareil photo que tu achètes, t'es en train de me dire que tous ces appareils photo-là ont toutes ces options-là pour absolument rien.
Non, il y a des gens qui vont acheter des gros Kodak, la grosse patente, puis ils vont mettre automatique.
Qui vont souvent le mettre automatique. Non, oui, puis je veux dire, ces options-là existent parce qu'on peut en tirer profit,
exact.
Mais ça ne veut pas dire que tu as besoin d'en tirer profit pour faire des belles photos.
Non,
faut juste pas mêler les cartes.
Ben, non, je veux pas mêler les cartes, mais la plupart des gens qui prennent des photos vont être au nez par leur appareil qui vont payer 2000$ parce qu'ils...
Ils vont se faire posséder par
leur appareil photo parce qu'ils ne sauront pas comment l'utiliser.
Mais le dire, c'est tough.
Exemple, si tu prends une photo qui est moche, il y a un paquet de logiciels maintenant qui sont disponibles, qui sont tout à fait gratuits. Je pense à Snapseed, une application qui est fantastique à mon humble avis.
C'est Google. Oui, non, les filtres sont intéressants.
On est allé dans un labyrinthe fait en champ de maïs. C'est mon fils qui a pris cette photo-là. Elle n'est pas fantastique, c'est un petit gars de 7 ans.
Déjà intéressant.
Elle n'est pas pire. Bon, fait que là, tu as un paquet d'options qui sont offertes tout à fait gratuitement pour, par exemple, faire la mise au point. Alors, si tu veux, tu choisis ce que tu veux. Je vais enlever un peu de luminosité ou en rajouter. Attends un peu. Je vais prendre mon doigt, ça va aller mieux. Luminosité. Puis là, regarde, tu peux juste enlever un peu de luminosité comme ça. Tu dis, OK, je vais en enlever un petit peu. Par la suite, tu dis, OK, ce que je veux faire, c'est gratuit, je vous rappelle. On va mettre plus de détails. Avec le doigt, tu vas de gauche à droite, tu rajoutes un peu plus de détails. Mais tu vois que ça barre, ça se tend à vouloir débarrer un peu. OK, je vais y aller avec un outil qu'on trouve dans Photoshop qui s'appelle le Dodge and Burn. Tu sais comment ça, tu peux. Mettons, je vais en enlever un petit peu. De lumière, je peux le faire ici. Tiens, regarde, tu vois, avec le doigt, je peux corriger. J'exagère un peu pour voir qu'on voit bien l'effet. Alors, tu peux arriver à corriger ta photo. Et si tu veux augmenter à certains endroits, mais tu peux en mettre un peu plus ici. Tu sais. Là, je me dépêche. Je fais ça. Bon, je l'ai trop mis là. On peut effacer. Et tu peux en mettre, tu peux enlever. Et tout ça, ça se fait quand même assez facilement avec ce logiciel-là qui, ma foi, est complet.
Il est gratuit. Il y a Visco aussi qui est un logiciel équivalent que j'utilise beaucoup pour avant de passer mes photos dans Instagram. Puis,
exact.
C'est vrai que c'est cool. Puis si je pouvais avoir un zoom optique sur mon téléphone, je capoterais là. Mais avoir une vraie application, tu sais pourquoi justement Canon, en tout cas. Canon pourrait faire une vraie application photo pour iPhone, puis que tu puisses ajuster des paramètres, puis qui deal avec le capteur qu'il y a dans l'appareil, au lieu d'être frustré que ce ne soit pas leur capteur. Puis...
L'autre chose, c'est que si ces compagnies-là, comme Nikon, en fait, on vise Nikon dans la vidéo, mais ça peut être aussi Canon, qui par contre, du côté vidéo, je pense qu'ils sont un petit peu mieux.
Oui, non, mais ils ont plus d'allure.
C'est ça. Donc, si ces compagnies-là s'assoient sur leur laurier, n'innovent pas, je veux dire, on le sait, que ce soit les gens chez Android ou que ce soit Apple qui a fait l'acquisition de petites compagnies qui visent à améliorer leur algorithme, leur ci, leur ça, elle va arriver la caméra qui peut donner... Si vous demandez à Stéphane Vaillancourt d'Objectif numérique, il va vous dire que techniquement, c'est possible de prendre des photos aussi bonnes qu'avec un DSLR avec un appareil comme ça. Si on a les bons logiciels arrière, la bonne optimisation.
Si on contrôle l'environnement, si on prend le temps, tout ça, mais je veux dire, t'auras pas... Tant qu'on ne peut pas contrôler l'ouverture,
on n'a pas la même versatilité.
On est déjà, c'est ça.
Exactement.
On est déjà coupé.
Oui.
Mais on n'est pas paralysé.
Non.
Puis ça le démontre. Avec moi, c'est vraiment au niveau de la 4K, parce que même Canon est fort en vidéo, mais au niveau de 4K, des caméras vidéo 4K, ça va. Mais la caméra la DSLR, whatever, réflexe. Avec la 4K, il y en a juste une, puis elle coûte 8 000$.
Regarde, je suis en train de corriger une photo.
Puis elle téléphone même pas. Ben, il faut dire que ça non plus.
Donc, le logiciel en question, pour ceux qui le demandent, ça s'appelle Snapseed. Regardez, je suis en train de corriger, là, j'ai exagéré. Là. Ça fait une photo qui était quand même...
Puis il y a également des filtres... Tu peux jouer avec des frills déjà tout pré-calculés, là, au lieu d'ajuster tout un par un.
Moi, je préfère y aller.
Ouais, moi aussi. Je suis de la vieille cool.
Si on regarde bien, c'est une photo du Beach Club et en arrière-plan, on voit Justin Bieber sans sacré d'être là.
Non, ça, c'est une photo qui a été prise à Disney World. Où est-ce qu'on était? Mais,
name dropping!
L'endroit le plus magique au monde.
Exactement. Alors, c'est intéressant comme petit logiciel. Là, c'est granuleux. J'ai exagéré beaucoup. Là. Mais c'est intéressant comme logiciel. Je vous invite à vous le procurer. C'est tout à fait gratis. On aime ça, le gratis. C'est du vrai gratis. Monsieur Alex, parlez-nous un peu de votre prochaine nouvelle.
Bien, comme Laurent le disait tout à l'heure, Apple aujourd'hui a lancé sans tambour ni trompette des nouveaux iMac.
Ben comme ils font depuis plusieurs années,
pour
les mises à jour...
speed bump, qu'on appelle. Ils font ça. Ils ont aussi lancé...
Explique-moi, c'est quoi le speed bump? Excuse-moi.
C'est quand ils ne font pas de changement, de changement majeur et qu'ils n'introduisent pas une nouvelle, si on veut, technologie. Donc, ils font des annonces importantes. Okay. Par exemple, quand ils passent du MacBook Pro au MacBook Pro Retina, quand ils vont présenter le iMac 27 pouces Retina, okay. Ou quand ils vont présenter le MacBook le Mac
quand,
Pro.
En fait, quand ils n'ont rien d'autre à annoncer au niveau des iPhones, des Watch, des machins,
c'est
pour
ça.
Boucher un trou, ils vont font mettre, ça. On ne fera pas semblant. La dernière conférence, il y avait en masse de stock avec l'iPad Pro.
Puis on n'a pas entendu parler d'ordinateur.
Ça, fait qu'il n'y avait pas le temps de parler d'iMac.
Par contre, ça fait quand même quelques conférences qu'on s'attend à voir une nouvelle souris, un nouveau clavier, un nouveau pad apparaître pour aller chercher les nouvelles fonctionnalités qui ont été introduites avec la montre, soit le Force Touch ou le 3D Touch.
Ben,
donc, aujourd'hui, en fait, ils ont annoncé une nouvelle souris. Rapidement, on a appris qu'il fallait la mettre sur le dos pour la charger, le trou pour brancher le fil.
Il est où? Je l'ai
Lightning,
pas vu.
Il est en dessous.
OK.
Ben, donc,
c'est pas
faut...
grave, mais on peut pas la laisser brancher. C'est ça, c'est dommage.
Exactement.
Parce que moi, honnêtement, là, Apple, depuis qu'ils se sont dit « Man, ça peut être sans fil, Bluetooth! »
Non.
Wow! Je m'en sacre.
Ouais, exactement.
Mon ordi est là, il est branché dans le mur, je veux brancher mon clavier à mon ordi. Arrête de faire en sorte de perdre mon Bluetooth.
J'aurais été effectivement très content que le fil soit branché en avant de la souris et qu'on puisse quand même travailler dessus. Je trouve ça un peu nono. Le iMac le plus cher est autour, une fois boosté au maximum, est autour de 5 159 $. C'est un processeur Skylake qu'on a là-dedans, dans le plus gros modèle. Et ils ont introduit des 21 pouces, des écrans 21 pouces.
21.5.
Exactement. Dans lequel on a encore le processeur Broadwell. Donc, je comprends pas tout à fait.
Je sais pas si c'était Broadwell avant ou si c'était l'autre d'avant.
Avant.
Je pense qu'ils viennent de passer à Broadwell. Mais honnêtement, si t'es pas dans un portable, parce que la différence entre Broadwell et Skylake, c'est surtout au niveau de la consommation énergétique. Fait à moins que ton bill d'hydro soit vraiment élevé.
Là, je suis rendu à 4000...
Je pense pas qu'il y a vraiment du gain. Il y a du gain au niveau de la mémoire, mais là, la mémoire vive, on sait pas si c'est de la DDR4
ou 5.
Quand ça devient de la Skylake, quand tu utilises un 27 pouces. Bon, il faut dire, Skylake, c'est 27 pouces.
Okay,
Broadwell, c'est 21.5.
Je suis rendu à 5000.
Ouais, mais pourquoi tu veux... Tu veux-tu une souris puis un Magic Trackpad en même temps? Parce que ça
L'écran 4K, on s'attendait à ce que Apple arrive avec, si on veut, là, le successeur de l'écran IPS, qui sont les dalles qu'ils utilisent, qui sont de très bonne qualité. Cet écran-là aurait été appelé de technologie Quantum Dot, mais comme il utilise du cadmium, qui est une matière relativement toxique et qu'Apple essaie de faire le moins possible par les deux par
mais
Greenpeace.
C'est quand même
on a décidé de ne pas aller avec ça. Probablement qu'ils économisent une coupe de piastres aussi sur l'écran.
Oui, sûrement, mais de toute façon, les écrans d'iMac Retina avaient bien du bon sens avant.
Mm-hmm.
Mais c'est drôle qu'ils en parlent parce que, je veux dire, le Quantum Dot, il est dans l'iPad.
Il est là.
Donc, l'iPad est déjà comme... toxique.
Oui, mais moins parce qu'il
doit respecter
plus petit,
les...
Pis...
Ouais, mais pareil.
Mais l'article, en fait, vient de 9 to 5 Mac, donc c'est eux qui ont soulevé le point qu'ils sont pas allés
sûrement,
avec le Quantum
Dot. Non, ça a bien du bon sens aussi.
Le Disk Fusion Drive, qui est une technologie hybride qu'on retrouve, entre autres, chez Seagate, où est-ce qu'on mélange, en fait, de la mémoire flash avec du stockage
de disque à plateau.
On achetait, en fait, un Fusion Drive avant, et on avait un disque dur de 1 teraoctet plus 128 gigs de mémoire flash. Ils ont coupé ça de 1 cinquième. La portion mémoire flash sur le disque dur est autour de 24 gigs. Donc, ton disque est plus petit et tu as moins d'espace.
Ben,
puis on
petit,
t'a dit...
Non. Par défaut, ça commençait avant 500 gigs. À cette heure, le Fusion Drive commence à 1 teraoctet. Fait que c'est pas plus petit.
Non, mais je veux dire, c'est plus petit.
Mais la
que
portion si prenais... SSD est plus petite.
Ton Fusion Drive était de 1.128 gig, grosso modo. Bon, la parole leur calcul.
Ben, il disait 500 gig, mais bon, est-ce que c'était...
Maintenant c'est 1012 plus 24, donc 1036 gig. C'est des pics à dire, mais quand même, me dire « Ah oui, mais l'optimisation du système d'exploitation fait que le disque dur est aussi rapide l'un de l'autre. »
Exactement.
Pas d'USB-C alors qu'on l'a introduit sur des portables. Pas de Thunderbolt 3 alors que la norme, elle est...
L'USB-C, ça n'aurait pas rapport.
Oui.
Non.
Pourquoi?
Parce que l'USB-C, ça vient remplacer, en fait, le micro USB. C'est justement le genre de périphérique que tu vas retrouver sur un téléphone. Mais les ports USB, c'était de la place pour un port USB standard. T'aimes bien mieux être rétro-compatible que de demander un adaptateur comme le fucking MacBook.
Ben, c'est-à-dire
moi, je suis content de voir ça.
Ben, c'est-à-dire que le USB-C est plus rapide que du USB 3. Donc, on aurait pu vouloir un disque
tellement
dur.
Plus rapide.
Le USB-C, c'est de l'ordre du Thunderbolt 1, alors que le USB 3, c'est de l'ordre de la moitié du Thunderbolt 1.
D'accord. Bon,
donc, 5, okay. gigabits. Bon. Voilà. Pas de Thunderbolt 3. Le modèle, comme je l'ai dit, 27 pouces, est équipé de Skylake. L'autre est en Broadwell. On l'a vu dans ta configuration. Les cartes graphiques sont encore des AMD.
All the way. Il n'y a pas d'NVIDIA. Nulle part. Apple est très...
Ils ont eu des frictions avec au cours des dernières années.
Finalement, on a NVIDIA. Ah non, finalement, on l'a pas. Ouais, on l'a pas.
En fait,
on l'a pas.
C'est parce qu'à chaque fois qu'ils ont essayé de le mettre dedans, ils sont tombés sur des batchs de cartes graphiques qui avaient comme des problèmes. Qu'on pense à la 8600 GT qu'il y avait dans les premiers Retina MacBook Pro. Ouais. Les premiers MacBook Pro, c'est-à-dire qu'ils étaient obligés d'être appelés, tout ça. Et une petite mise à jour d'iMovie qui permet maintenant de créer, monter et partager en 4K, vu que le iMac est capable de le faire.
Ouais. Tout ça pour vous dire que c'est pas donné, puis il y a des modèles pour tous les prix.
Exactement.
Pour toutes les gammes.
Mais c'est vraiment encore une fois à cause de la valeur du dollar canadien, parce que aux États-Unis, l'entrée de gamme est 200 US de moins cher, tandis que nous, notre entrée de gamme, c'est le même appareil. Là.
Ouais.
100 il me semble 150 de. Non, 200. 100 ou 150 $, j'ai pas le chiffre devant moi, de plus.
Okay.
Mais c'est la valeur du dollar canadien qui est
bon.
On a aussi Stephen Levy qui a pu avoir accès en fait à un des départements d'Apple où est-ce qu'ils ont développé ces trois nouveaux périphériques-là, soit la nouvelle souris, le nouveau clavier, le nouveau pad. Évidemment, dans le nouveau clavier, on a les touches papillon comme sur le MacBook.
Oui, c'est sûrement. Même prix, c'est 129 $. Ça reste un clavier cher,
Il est en bas de 99, le clavier.
Non, le clavier est 129 $.
Oui, 129. Le nouveau, il est 129.
Mais l'ancien était 79.
79. Il avait descendu au cours des années. La souris, 99 $ en opposition à 69, 79, tout dépendant où est-ce qu'on l'achetait. Le nouveau pad, parce qu'il y a le Force Touch dedans, puis il est un petit peu plus grand.
Combien?
169
Comparativement à...
Ben, celui d'avant était 79 aussi.
Mais une centaine de
pièces. Honnêtement, moi, là,
toi,
le Force Touch,
ouais.
C'est vraiment de la gimmick.
Okay.
Honnêtement, là, nombre de fois que je dois ajuster, mais je veux sélectionner quelque chose en Photoshop. Moi, là, quand je clique, je clique fort. Fait que quand je clique, je suis nécessairement au plus profond. Fait que là, tu sélectionnes, puis là, tu arrives sur la marge, là, sur la marge du pixel, tu lâches, mais parce que tu lâches, puis tu tombes de deux coups, ça tasse tout le temps de quelques pixels.
Mais tu recommanderais jamais à personne de travailler avec un trackpad dans Photoshop, tirer avec une souris.
J'ai toujours une. Moi, je suis converti au trackpad depuis genre 5-6 ans avec les shortcuts. Bon. J'ai fait du design avec un trackpad, je veux dire, j'en ai fait plein. Aucun problème avec ça. Tu peux totalement te convertir à ça. Mais...
Une des choses que j'aimerais dire, par contre, c'est que ce soit sur les portables de Apple ou que ce soit avec leur trackpad extérieur, je ne suis pas encore tombé sur n'importe quel modèle de PC. Il faut dire que je n'en touche pas beaucoup sur un trackpad qui est aussi fluide, efficace.
Parce qu'il faut dire que c'est un verre qui est dessus.
C'est
ça. C'est pareil comme les portables. C'était pas le cas avant aussi. Ça peut justifier la différence de prix. L'ancien trackpad, c'était pas du verre.
Au niveau de la conception, ça a dû coûter plus cher de faire aussi.
Puis j'en ai tellement pas trouvé que je lance aujourd'hui un concours. Je serai au GeekFest ou dans d'autres événements. Vous pouvez me croiser un peu partout. Si vous venez avec votre portable PC avec Windows dessus, puis un trackpad que je fais, waouh, il est vraiment bien équilibré.
Vous pouvez lui casser la gueule.
T'aimerais trop ça. Je vous donne.
Un bec. Okay.
Non, je vais vous acheter un Chromecast.
What?
Ouais. Je vais faire ça. Tu viens me présenter un pad.
Mais le problème, c'est que le jeu chez toi, ça marche pas. C'est super.
Oui, mais je vais être.
Moi, je leur donne 1 million.
OK.
Je vais être subjectif.
C'est pas
subjectif.
C'est moi qui décide.
C'est ça. Trêve de bulleuser, les gars. C'est un beau concours.
Tu le feras des cas. Ah, tu vois?
Moi, c'est excellent. Il faudrait
que ce soit Denis qui juge. Là, ça
je sens qu'on va s'embarquer dans d'autres choses en parlant de l'autonomie du CSS qui Peut-on parler d'un battery gate ici, monsieur Laurent Lassalle? Ou est-ce que c'est un truc que vous voulez créer pour créer un buzz?
Non, mais le terme a déjà été utilisé. Ouais, ouais. Je pense pas que ce soit de l'ampleur du Ben Gate, par exemple, mais c'est quand même inquiétant. Il y a The Wired que totalement, là, genre, ça dérange pas, on s'en fout, vous capotez pour rien.
Les autres, ils ont acheté, en fait, le communiqué de presse de Apple.
Man, ça m'a vraiment surpris de lire ça, mais la logique derrière n'était pas totalement nulle. Puis là, on se lance beaucoup sans expliquer ce qui s'est passé. On va expliquer ce qui s'est passé. Donc,
expliquons.
Apple a sorti, il y a quelques semaines, un certain téléphone qu'on appelle le iPhone 6S.
Que je désire.
C'était la suite de l'iPhone 6, qui était la suite de l'iPhone 5S, qui était la suite... Non, mais je ne refais pas toute l'histoire, mais tout ça pour dire que, exceptionnellement, le processeur A9, donc le processeur de nouvelle génération, a été fabriqué par deux entreprises, donc Samsung et TSMC, qui est une entreprise taïwanaise. Ces deux fournisseurs de puces excessivement compétentes dans les deux cas, ces entreprises. Donc, il y a des petites différences. Ça, c'est juste normal.
Il n'y a pas un chip qui est pareil, là.
Exactement. Même par le même fabricant, mais généralement, tu as quand même plus de consistance.
Ouais.
Les appareils, la chaîne de montage de Samsung est différente de celle de TSMC, ce qui fait en sorte que même s'ils respectent le même design, les mêmes dimensions,
les dimensions sont pas pareilles.
Ils respectent les mêmes dimensions, mais ça fait en sorte que l'assemblage de la puce fait en sorte que le produit de Samsung est plus petit, c'est infime.
Okay.
Mais d'après moi, les concepts d'Apple déclare des dimensions X. Qui dit vrai? Est-ce que c'est Samsung qui est plus fidèle ou TSMC? On ne sait pas.
La différence de ça, c'est quoi?
Ça fait en sorte que, selon certains propriétaires qui ont pu comparer les deux appareils, on peut avoir 2 heures d'autonomie de différence.
2 heures?
Selon les consommateurs. Apple dit de 2 à 3 % mais même de 2 à 3 % moi, je trouve que ça m'agace.
Donc, on peut acheter 2 téléphones.
Le même prix, la même affaire. Tu ne sais pas c'est quoi le processeur qu'il y a dedans. Il y a moyen de savoir, puis ça, on va vous le dire. Mais, je veux dire, The Wired disait que ce n'est pas grave parce que c'est juste des comparatifs avec des benchmarks. Ils analysent, ils donnent des formules mathématiques au processeur pour savoir s'il est plus gourmand. Puis bon, le processeur fabriqué par Samsung est plus gourmand en électricité. Et a plus de difficultés à gérer la chaleur parce qu'il est plus petit que celui de TSMC. Fait que ça fait en sorte que tu as moins d'autonomie avec un processeur de Samsung. Ce qui est quand même drôle, vu que Samsung est un concurrent. Mais
c'est
bon.
C'est un test théorique qui est fait par le bench.
Oui.
Donc, eux autres, ils disent, si on fait rouler la puce au maximum, tu as tant puis tant d'une puce à l'autre. Moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de problème ayant la puce TSMC dans mon téléphone.
Ah, t'as vérifié?
Comment on vérifie?
C'est ça, je l'ai fait la vérification live.
En fait, il y a 2 applications qu'on peut télécharger sur le App Store qui sont gratuites.
Le code ne va pas te le dire?
Peut-être si on le fait vérifier, là, mais moi, j'ai la puce TSMC, j'ai vérifié, fait que
c'est le code de la boîte, c'est pas le code de l'appareil.
Le truc, c'est que tu peux pas vérifier avant, donc tu peux pas avoir le choix. Maintenant que la nouvelle est sortie...
Si tu commandes sur Internet...
Ah, OK, tu peux décider.
Non, mais je veux dire, si tu vas en magasin, tu demandes l'iPhone, tu prends la boîte, le code de la boîte n'est pas bon, tu dis, donne-moi une autre. Moi, je le ferais.
Donc, sur la boîte, c'est inscrit. Qu'est-ce qu'il faut vérifier sur la boîte?
Ben, là, j'ai l'information d'un site américain. Il va savoir si, au Canada, le code est différent, mais les puces produites par Samsung, donc celles à éviter, auraient, à la fin du numéro de série ou du code de produit, N71AP pour l'iPhone 6S ou N66AP pour l'iPhone 6S Plus. Tandis que les bons, les bons appareils, au lieu de... C'est les mêmes codes, mais au lieu de AP, on a MAP.
Donc, il faut que ça soit écrit MAP.
Si tu vois le mot MAP quelque part, tu dis, c'est le bon. Mais encore là, c'est très théorique, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, mais honnêtement, même si Apple dit qu'il y a une variation de 2 à 3 % et c'est tout à fait normal... OK, t'es en train de me dire qu'il y a 3 % de plus, c'est une possibilité de 3 % de plus avec tel produit, je vais m'arranger pour acheter ce produit-là. Voyons donc, c'est le même prix.
Et comme tu l'as dit, en fait, Samsung est un compétiteur, tandis que TSMC est juste une compagnie qui fabrique des processeurs qui veut juste avoir plus de business de la part d'Apple. Fait que eux autres, ils ont...
Est-ce que
je pense non. pas qu'il y a un gros
complot avec,
mais... Exactement. Non, il y a pas de complot. Un complot. Parce que non, c'est... Si Samsung avait travaillé contre, il se serait arrangé pour que l'écart, le scrappage soit plus non, total mais que
en,
ça.
En fait, Samsung travaille, je veux dire, chaque fois que tu achètes un iPhone, depuis longtemps, même la mémoire vive, les iPads, c'est de la mémoire Samsung. Il y a du Samsung un peu partout. Donc, non, je pense qu'ils sont compétents. C'est vraiment juste un écart tout à fait normal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parce que Apple savait qu'elle allait vendre beaucoup de téléphones, ils ont exceptionnellement fait affaire avec deux fournisseurs. Généralement, une entreprise comme justement Samsung va juste faire affaire avec ses chaînes de montage pour ses processeurs. Puis, je veux dire, ils faisaient avec deux processeurs différents. Avant, il y avait l'Exynos, puis il y avait le Snapdragon pour leurs anciens appareils. Là, ils ont enfin uniformisé ça. Mais c'était quand même deux processeurs complètement différents. Là, on a le même processeur, mais fabriqué à deux endroits. Ça s'était jamais vu avant.
À propos des processeurs, en fait, chez Apple, il y a un article qui est sorti aujourd'hui d'un gars qui est un journaliste technologique qui a écrit sur TechCrunch, entre autres et d'autres, et qui dit qu'en ce moment, la puce la plus rapide, il fait un calcul en power per watt, comme Steve Jobs l'avait fait à l'époque. Il dit le processeur qui est le plus rapide en ce moment, c'est Apple qui le produit.
Qui le conçoit
parce que bon, c'est un processeur ARM. Ouais. Eux ont leur propre team de design et ils le font fabriquer ailleurs. Il dit tellement que les gens à Silicon Valley ne veulent pas travailler pour Qualcomm ou ne veulent plus travailler pour Intel. Ils veulent aller travailler pour Apple. Est-ce que c'est vrai? Je ne le sais pas, mais c'est une grosse affirmation. Mm-hmm. Et ce qui est impressionnant, c'est que Apple est un fabricant de bebelles. Ils ne sont pas développeurs de... Ils n'ont pas une expertise de 40 ans en arrière à faire des processeurs. Ils ont toujours utilisé les processeurs de quelqu'un d'autre. Et là, ils ont acheté depuis une couple d'années, à cause des téléphones, des petites compagnies pour améliorer la technologie.
Et ça marche.
Et ça marche.
Okay.
Et il y a des gens qui commencent à demander, ils disent « Hey, ils seraient capables, ils pourraient se débarrasser d'Intel à un moment donné, puis ils pourraient bien sortir un portable avec un processeur ARM dedans. »
À suivre.
Donc, ça demandera encore une fois de la conversion. Là,
oui, parce que... une grosse transition.
Ils sont capables. J'ai pas le goût.
T'as pas le goût, mais c'est pas toi qui décide.
Ça serait une troisième. on a eu genre vers le PowerPC. Okay. Oui. Après ça, on a eu du PowerPC vers Intel. On aurait en main.
Oui, mais.
Mais la pire, c'est qu'on est dû. Si on regarde les dates, là, ça devrait.
Effectivement. Sauf que contrairement au modèle d'affaires d'avant où est-ce que tu achetais ton logiciel, puis là, tu fais comme ah ouais, mais là, j'ai dû. Là, on a de l'abonnement, puis tu sais, Adobe, s'ils veulent keep up, s'ils veulent suivre, ils vont t'offrir la version ARM l'année prochaine.
Ah, non, c'est clair, mais toi, tu travailles avec des ados, hein?
Ouais.
Tu veux le K-pop, man?
K-pop, man!
K-pop, man! Hey, je tiens à remercier quelqu'un qui vient faire un don de 50$. Je ne l'ai pas vu passer. C'est Anne Antonin. Merci beaucoup. C'est très apprécié, Anne. Merci beaucoup. Ça aide à faire fonctionner la radio. C'est très cool. Également, il y a Pierre-Luc Bro qui nous a donné 5$ via Patreon. Patreon.com/Radio-Talbot. Ça vous tente de nous encourager. C'est là que ça se passe. Et rapidement, il y a quelqu'un qui me dit qu'il a designé un jeu puis il veut me le présenter. Je ne fais pas ça. Parce que je ne veux pas me faire poursuivre. Parce que les gens disent « Ouais, t'as copié mon idée! » Non, je ne fais pas ça, malheureusement. Allez voir.
Tu copies idée, toi.
Ah non, mais tu sais comment ça marche.
Ouais, non, je sais.
On ne veut pas avoir de problème. Donc, merci beaucoup. C'est des généreux donateurs. Là, il y a le site iFixit qui vient de se faire couper les vivres par Apple.
What?
Et oui, paraît-il que...
Ils ont couru après, ils le savaient.
Et oui, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont démonté le nouveau Apple TV. Et eux autres, ils l'ont reçu. Ils ont reçu un kit de développement. À l'instant, je vais vous montrer ça. Dingue. Ils ont reçu. C'est un site que vous devez absolument connaître pour réparer vos
bêtes. Pas juste pour les Mac ou les iPads. Les autos. Ils ont tellement de. Ah, les autos. Il y a plein de produits PlayStation 4, les consoles, les choses.
Oui, regarde.
Très bien.
Ici, j'ai écrit PS4 dans le truc. Attends, je vais juste mixer ça comme il faut. Trois choses. Bang. Regarde ça. Ici, j'ai marqué PS4. Donc, tu peux aller voir les morceaux. Ils vont te vendre des morceaux moins chers que si tu voulais les acheter directement chez le manufacturier.
Tu connais le nom de la pièce, fait que tu peux toujours magasiner, mais ils disent exactement c'est quoi les pièces. Ils disent c'est quoi les outils dont tu as besoin. Évidemment, ils les vendent, c'est rarement tout un kit fait. T'sais, ils vont dire exactement le tournevis que tu as besoin, quelle dimension. Fait qu'il y a toujours possibilité d'aller voir ailleurs.
Puis c'est fait par une communauté de maniaques qui ont même des forums de réponse. Eux autres, donc, ils ont reçu un magnifique Apple TV nouveau, un kit de développement. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont ouvert, parce que c'est ça qu'ils font.
C'est ça.
Ben oui.
Ils l'ouvrent, mais ils le regardent.
Mais un kit de développement, OK. Je ne savais même pas que ça existait, un kit c'est de ça. Développement ben oui. d'Apple TV.
C'est la première fois, en fait, qu'ils font ça. Ceux qui sont inscrits comme développeurs pouvaient s'inscrire dès l'annonce du nouveau Apple TV à une espèce de concours pour recevoir un Apple TV avant les autres.
Lui,
les autres, ils l'ont ouvert. Il coûtait une pièce, le Apple TV. Il fait qu'il te l'envoyait et il disait « joue avec ». Mais dans le...
C'est ça, c'est pas un dev kit. En fait, c'est juste en l'Apple fait, TV ici, d'avance.
Dans la nouvelle que j'ai vue, c'est un kit de développeur.
Oui, ah ouais.
Ouais, parce qu'il manque des éléments dedans. Le Siri n'est pas là, par exemple. Des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment pour jouer avec, développe ton application, check tes affaires, mais démontre-les pas, puis montre pas c'est quoi la technologie qu'il y a dedans, puis tout ça. Mais
c'est
dans l'ADN d'iFixit.
Ben
ouais,
c'est
ça qu'ils font.
C'est dans l'ADN d'Apple de pas dire ce qu'il y a dans les produits. Justement, on parlait tantôt de Broadwell puis Skylake. C'est pas écrit nulle part, ça. Là. Tu peux pas le savoir.
Donc, ils ont démonté ce kit de développement et Apple prétend que ce démontage, et je cite, est susceptible d'entraver la performance ou l'utilisation prévue de l'App Store et enfreint les politiques d'utilisation du produit. Donc, on ne verra plus d'application iFixit sur l'App Store. Ça a été ici final.
Application qui n'était pas bonne, qui était bonne. Là depuis.
C'est ça. Mais il venait de la peaufiner pour s'adapter au 9, iOS 9.
Ah oui?
Oui, c'est ce que les gens d'iFixit nous disent. Ils vont dire ce qu'ils veulent maintenant et puis non. Et ils vont se concentrer maintenant sur le Google Store pour offrir aux gens leur service de réparateur virtuel.
Oui, mais leur site web, il est responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte à la grandeur.
C'est pour ça. Moi, je suis tellement anti-application. Si ton site devrait être responsive, puis s'il ne l'est pas, tu es épais.
Bon, c'est réglé.
C'est dit.
C'est dit. Mais parlant de ça, j'ai fait ma chronique à Énergie aujourd'hui, puis quelqu'un me demandait où on peut faire réparer une vitre d'un produit autre qu'Apple. Est-ce que ton magasin que tu réfères souvent en face du Apple Store fait ça?
C'est exactement leur champ de compétences.
Bon, c'est ce que j'ai dit. C'est quoi le nom du magasin?
Ça s'appelle iRepair Montréal.
iRepair, j'ai dit iFixit.
Non, c'est iRepair Montréal.
OK.
Bon, c'est des jeunes, ils ont parti le truc, ils ont dit on appelle ça iRepair parce que iRepair ça fait plus balayeuse. C'est correct, mais à part le nom qui est un petit peu anglophone, qui de toute façon sont des mots que j'utilise à profusion, ils sont hyper compétents. On peut trouver un peu partout sur Kijiji des gens qui vont dire « j'en répare des téléphones, viens chez nous, dans ma cave, j'ai 3-4 outils qui ressemblent, m'a-t-il l'ouvrir? » Bon. Eux autres, écoute, ils sont équipés avec un bain sonique pour faire le nettoyage de si tu échappes du café sur ton iPhone ou sur ton ordinateur, tu peux le nettoyer avec ça et ils vont être capables de sauver, parce que c'est leur slogan, les sauveurs de vie professionnelle, ils vont être capables de sauver des appareils qu'on pensait finis. Ils ont des microscopes, ils travaillent avec des pinces qu'ils ont achetées en Allemagne, dont le bout est microscopique et qui ont payé 100$.
Donc,
ils travaillent avec du vrai équipement. Oui. Et souvent, en fait, il faut avoir la Corona extra grosse pour se placer, faire la réparation de produits Apple en face d'un Apple Store. Ça fait 5 ans qu'ils sont là, tu rentres dans le magasin, tu regardes, et à longueur de journée, il y a du monde qui rentre là-dedans. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont toujours en train de chercher du monde pour travailler, pour en réparer plus. Par jour, il m'a dit, écoute...
Combien d'argent tu reçois pour ça? Là?
Je te le dirai en
ordre. OK, maintenant, les gens veulent savoir c'est quoi un site responsive. Parce que vous employez beaucoup d'anglicismes ce soir. Je tiens à vous semoncer, d'ailleurs.
Oui.
Non.
Mais il n'y a pas de francisation de
responsive. Oui.
Un site adaptable.
Adaptable.
Adaptif.
Adaptif.
Non, parce que c'est autre chose, adaptable.
Parce qu'on a fluide. Fluide, ça pourrait fitter...
Un site fluide.
Fitter, ça veut dire s'agencer.
S'emboisser, s'enchasser.
Donc, c'est un site qui est le même essentiellement lorsqu'on le visite sur un ordinateur ou un téléphone intelligent, mais qui, selon la dimension de l'écran, va ajuster son information, son interface en conséquence. Donc, si je suis sur un site responsive, je prends la fenêtre et je la réduis techniquement. L'interface devrait s'ajuster et faire en sorte que même si j'ai genre 600 pixels de large ou 300, j'ai quelque chose qui se tient, puis le texte est rendu plus petit, puis je peux cliquer un peu partout.
Alex cherche, là, en ce moment.
Non, je suis en train de répondre à un chat. Okay. Bref, quelqu'un qui demande si on signait le NDA pour
IFIX. Probablement. Pourquoi
oui, ils l'ont signé.
Oui, ils signent tout. Il faut que tu signes le NDA pour avoir les produits. Si tu ne signes pas, tu ne l'as pas. Mm. C'est de même, ça marche.
Magie.
Puis pensez-vous que les groupes de Facebook, on va nous demander la permission prochainement avant d'être insérés dans
c'est
un groupe?
C'est juste non? Toi. Ah, je n'ai pas vraiment d'autres amis qui m'en parlent. C'est pas comme un grand problème.
Il y a un autre. Il y a un autre problème qui ressemble à ça. Ouais. Ben, dans une école qui est un microcosme, on a l'application iMessage maintenant sur laquelle on peut ajouter plusieurs personnes. Il y a pas, on peut pas dire...
Non, fait des groupes de messages.
Des groupes de messages, mais c'est une personne qui va faire comme « Hey, j'ajoute mon ami de telle classe, telle classe, telle classe. » Puis on est obligé, en fait... moi, il y a deux semaines, on est venu me voir, on a dit « Enlève iMessage. » Là, j'ai fait comme... Écoute, tu vas avoir des rouleaux de papier de toilette en feu lundi prochain si on fait ça.
Donne pas d'idée, toi.
Non, non, mais bon.
T'exagères pas un petit peu?
Non, vraiment pas. J'en ai parlé juste à la brigade tactique, puis il était comme « Hein? » Il capotait. Donc, ce que j'ai dit, c'est aller en classe, avertissez-les, puis renseignez-les sur ce qu'on veut qu'ils fassent, ce qu'on veut pas qu'ils fassent avec le iPad. Ça, faites-les pas. Et une fois que vous êtes averti, ben là, si on a à intervenir là-dessus, ben on vous l'avait dit. C'est comme iFixit, là. Ils se le sont fait dire que... ils ont signé l'NDA, ils l'ont fait en toute connaissance de cause.
Bon. Un site, on dit un site dynamique qui s'adapte.
Oui, dynamique, j'aime ça.
C'est bon, merci beaucoup.
Il y avait un autre terme que j'utilisais, mais je...
Papa Roro qui dit ça. Bon, c'est pas grave. Où est-ce qu'on a fait le tour ce soir?
Je pense que oui, surtout c'est 21h27.
C'est fou, on a busté bien comme il faut.
Ben oui.
Busté, ça veut dire dépasser, aller plus loin.
J'avais un petit quelque chose. Apple a perdu une bataille en cours pour utilisation d'un brevet ne lui appartenant pas et fera face à une amende de 862 millions. Laisse-moi
parler. Attends un peu. Ce que je vais faire, je vais te laisser parler de ta prochaine nouvelle qui est intéressante pas mal aussi. Laisse faire les brevets d'Apple. Ils vont y gagner. Il y a des avocats, ils ont des idées. Bon. C'est quoi l'histoire de Disney qui a aidé des amputés? C'est quoi ça? Je suis sensible à cette cause.
Open Bionic est une compagnie de Grande-Bretagne qui vise à fabriquer des prothèses à prix abordable. On parle de 500 $ et moins.
Quand même.
Et ils viennent de recevoir, c'est des prothèses qui sont imprimées en 3D. OK, donc avec une imprimante 3D.
J'espère que c'est 500$ et moins.
Exactement. Mais pas avec une imprimante que tu peux t'acheter à 100$ sur AliExpress. Tu sais, c'est des meilleurs.
Il existe des imprimantes 3D.
Oui.
Je sens qu'on s'écarte.
ils ont reçu un fort coup de main de la part de Disney qui leur a donné pro bono des licences d'utilisation pour reproduire des mains de Iron Man, de Jedi, c'est celle qu'on a vue à l'écran avec une espèce de glow bleu à l'intérieur qui ressemble à un lightsaber. Et évidemment, pour les filles, on a Frozen. Donc, ce sont des prothèses qui sont offertes à des enfants qui, évidemment, ont
un handicap.
Okay. Et on imprime le truc de... Bon, on a même... Je ne sais pas si tu l'as, je t'ai envoyé par Facebook, Twitter,
c'est
vidéo.
Quoi? Non, mais je veux dire, je comprends, l'enfant, c'est un amputé, fait que là, il est tout content d'avoir son bras d'Iron Man, mais là, après ça, t'as l'autre enfant qui veut quasiment se faire couper le bras pour en avoir
un.
Je sais pas, ça dépend de l'âge. Des...
Donc, dans les écoles, on va commencer à montrer la scène de Evil Dead 2 où est-ce que Ash se coupe le bras pour empêcher ça.
Bon, je sens qu'on va arrêter ça là. Ça dérape.
La vidéo que je t'envoyais.
Oui, mais tu m'envoies ça à 8 places. Je peux pas le présenter.
T'es trop énervé.
C'était Robert Downey Jr. qui vient en Tony Stark offrir un des bras à un enfant avec la mallette de Stark Industries et tout le kit, avec la désinvolture, puis un peu le je m'en foutisme. Puis le kit, il est juste comme oh my god, puis il se fait mettre le bras, puis il capote.
D'accord.
La seule vidéo.
Yeah. Prochain coup, un courriel avec tout ça. C'est fantastique.
Je vais trouver après.
Je sais bien, c'est comme ça. Merci, Alexis. Merci, M. Lassalle.
Yeah.
Merci à tous les modérateurs sur le chat, encore une fois. Merci aux 14 nouveaux qui se sont... c'est des subs qui ont renouvelé leur abonnement sur Radio Talbot. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Ben Chosly, merci encore une fois. Et à tous ceux et celles qui nous appuient comme ça dans notre démarche à tous les soirs. Ce soir, on a foulé 350. C'est très apprécié. Donc, on se retrouve demain pour un autre Radio Talbot avec Myriam Lala qui va venir faire un tour avec Jean-Barre. Ça va être le fun. Jean-Barre, Lala. Et jeudi, j'espère avoir les deux Ben et Ian Richards qui est en convalescence. Oh. Hein, il est en convalescence. Ah, oui. Il y a une petite opération. Là, il va bien. Il va arriver en pleine forme et il va me ramener mes jeux.
Parce que, c'est drôle.
Oui.
Donc, on rappelle à Laurent qu'il n'est pas obligé de se couper le bras et qu'il peut très bien s'acheter le cossin chez Walmart qui est vraiment moins cher qu'à 500$ et qui va te faire un bras d'Iron Man.
Non, mais c'est pas pour moi.
Et on rappelle ça dans le... J'ai mis le lien...
On était correct, là.
J'ai mis le lien dans le truc.
Dans le truc?
Dans le chat. Benjo Slide a mis le lien.
OK, c'est ça. Merci beaucoup. Les boys, je vous aime. Ne changez pas d'un hiatus. Vous êtes parfaits. Regardez la face. Regardez ça, s'il est beau, bonhomme. Regardez la face. Regardez ça. Hein? Sentez-vous l'amour? Moi, je le sens. Commence à faire chaud, d'ailleurs.
Oui!
Hey, attention à vous autres, tout le monde. On se retrouve donc demain soir pour un autre Radio Talbot. Passez...
Radio Talbot vous a été présenté par...
C'est effronté, ce Talbot-là. Il m'a coupé la parole.
Ça n'a pas d'allure.
Non, écoute, ça commence tête. J'avais demandé de laisser un petit noir. Elle avait un petit fils qui laisser... Pas eu le temps. Salut tout le monde. Bonne soirée. Oh, ça plante. J'aime ça. Ah ouais, Mino, c'est le temps, là.
Radio Talbot vous a été présenté par les Brasseurs Illimités et la bière Simple Malte. Mugodio, les spécialistes pour les DJ, le son et la musique depuis 1998. Mugodio.com. EB Games, le plus grand détaillant de jeux au Canada. Et par CIPC, votre référence pour votre solution informatique.